Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Votre fidélité à Radio Okapi qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Dans un rapport publié la semaine dernière, le Centre National d'Appui au Développement et à la Participation Populaire, CNADEP en sigle, affirme qu'en RDC, malgré un potentiel énergétique, le taux d'accès à l'électricité est inférieur à 10%. D'après les chargés de suivi au CNADEP, la RDC régorge notamment l'hydroélectricité, les solaires, les éoliennes et la géothermie qu'il faut capitaliser afin de combler ces déficits et d'électrifier l'ensemble du territoire national avec une desserte de qualité. Alors comment réagissez-vous? Vous pouvez participer à cette émission en composant bien entendu les 081-890-39 pour votre intervention en direct. Vous pouvez également, avec l'ensemble d'internautes ici au pays et à l'étranger, sur www.radiokapi.net ou encore sur notre page Facebook. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jocelyne Mukendi et Hippolyte Kapanga concourent à la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Professeur Avoki Omekanda, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, J.R.
Vous êtes en train d'intervenir depuis les États-Unis. Nous rappelons que vous êtes professeur des universités ici au Congo et chercheur aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-il possible aujourd'hui d'arriver à électrifier l'ensemble du territoire national?
Eh bien, ce que je peux dire, c'est comme le prélude de l'émission qui a bien dit que nous avons un taux d'électrification en dessous de 10%. Et très exactement, je pense que l'Agence de l'énergie des Nations Unies, l'édition 2019, a dit que nous étions en Afrique, a dit qu'il y a un problème.
Alors,
je veux vous rappeler que quand nous étions encore aux Haïti, la situation était quand même meilleure. Dit qu'il y a moyen d'améliorer et revenir du moins là où nous étions.
Oui, quand vous dites qu'au Zaïre, la situation était de loin meilleure, et qu'est-ce qui a fait que la situation soit de loin meilleure? Est-ce que parce qu'on sortait de l'indépendance, les Belges avaient mis des moyens, nous avaient laissé des outils et aussi des dispositifs qui pouvaient mettre l'ensemble du territoire à l'aise. Mais par après, les choses se sont dégradées.
Ben, oui, en fait, je dirais que même plus au-delà de ce que les Belges ont fait, rappelez-vous que en 1972, nous avons inauguré Inga 1. C'est Inga 1 qui avait une puissance de 351 mégawatts. Et cette centrale a été construite, elle était flambant neuve, bien sûr, qu'elle a été construite par les Belges avec le financement du Congo. Et puis en 82, nous avons eu Inga 2, qui avec une puissance installée de 1424 mégawatts. Donc, après l'indépendance, nous avons quand même eu une sorte de lancée ou de momentum pour essayer d'électrifier le pays. Et donc, à l'époque, vous savez d'ailleurs que nous avons cette ligne à courant continu qui relie le Inga au Katanga, qui a été construit par les Américains de General Electric. Donc, c'est ce momentum que nous avons perdu depuis un certain temps. Et comme la population est en train de croître, on n'a pas suivi. Et en plus aussi, c'est le vieillissement de l'équipement. C'est là, justement, que, bon, personnellement, ce que j'apporte aujourd'hui, ce qui est fatable, c'est de dire, oui, c'est bien de continuer à penser, à peut-être s'endetter pour avoir de nouveaux équipements, peut-être Inga 3, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de maintenir et réparer ce que nous avons? Parce que je ne sais pas si vous le savez, que, bon, aux environs de 2002, déjà, nous savions que Inga 1 et Inga 2 ne produisaient environ 40% de leur capacité. Donc oui. Voilà un peu le problème là où nous sommes. Il me semble personnellement que nous sommes un peu plus axés aux nouvelles installations qui sont conditionnées par l'endettement extérieur plutôt que de nous concentrer vraiment à maintenir et à réparer ce que nous avons.
Mais alors comment expliquer ces paradoxes, l'argent de la Banque mondiale et l'absence de la maintenance? C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les quatre turbines qui fonctionnaient au niveau de Inga 1 ne fonctionnent plus, ne sont plus opérationnelles.
Justement, vous avez raison. Mais je voudrais quand même vous rappeler que quand le président de la République a pris le pouvoir, rapidement, je pense, et j'ai suivi, il a parlé d'un accord avec General Electric pour essayer de retaper une à un et une à deux. Alors la question que je me pose aujourd'hui, c'est que à tous les frères congolais, où est-ce que nous en sommes avec ça? Oui, on sait qu'il y a un débat sur une à trois qui se passe, mais bon, ben, la réparation de l'équipement que nous avons déjà sur place nous appartient. Où est-ce que nous en sommes? C'est là finalement que je voudrais seulement rappeler à nous tous congolais, nous avons des universités, nous avons une faculté politique, nous avons dit ça et plusieurs dit ça, au travers du Congo, nous formons des ingénieurs. Il n'y a pas moyen que nous puissions justement investir là où nous-mêmes nous pouvons, avec notre capital et notre savoir-faire, que de rétaper ce que nous avons. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai suivi d'ici aux États-Unis un reportage, je crois, de la télévision belge, je ne sais pas la française, qui parlait de la centrale de Tchopo, du côté de Kisangani, qui pratiquement fonctionne peut-être à 10% de sa capacité, à cause encore des équipements vétus, qu'elle est réparée. Voilà la réalité aujourd'hui.
Voilà. Alors, que faut-il faire aujourd'hui concrètement, vous en tant que professeur et chercheur au niveau des États-Unis, avec tout ce que nous avons comme moyen? Faut-il aller vers ce projet Inga 3, qui semble être un projet, si pas régional, mais un projet panafricain, parce que ça prend en compte plusieurs pays?
Bon, moi, je suis d'accord avec vous. C'est quand même un problème qui mérite un bon débat national, un peu comme on le voit ici aux États-Unis et même dans d'autres pays développés. C'est-à-dire que quand il y a des gros problèmes qui intéressent toute la population, bon, à un moment donné, c'est nécessaire qu'il y ait un débat. Personnellement, je voudrais qu'un jour nous puissions arriver à ce genre de débat, par exemple, comme je vous parle aujourd'hui. Eh bien, tu étais qu'un expert de la compagnie de production d'électricité, même ou encore d'autres, soit présent pour que nous ayons un vrai débat d'experts et de techniciens là-dessus. Parce que bon, nous avons le projet Inga 3. Ce projet, il est bien. Mais, écoutez, ce projet a commencé depuis l'indépendance. Mm-hmm. On peut toujours parler de Inga 3. Les deux régimes passés ont parlé de Inga 3, juste aujourd'hui, on parle de Inga 3. Mais, au moment où nous parlons de Inga 3, nous sommes en train de vivre sans vraiment avec un taux d'électrification en dessous de 10%. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Et je voudrais aussi vous rappeler, regardez bien le débat de Inga 3 aujourd'hui. Bien, il y a trois versions. Mmh. Regardez très bien et écoutez bien ce que je vous dis. Observez vous-même. La première version, c'est celle que nous avons eue dans le régime du président Joseph Kabila, qui consistait à continuer la 3 pour vendre l'électricité aux pays africains avec cette idée panafricaine. Mmh. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en fait, bon, cette idée-là n'est plus encore en vogue comme elle était auparavant. Mmh. Aujourd'hui, il y a deux courants que nous avons qui sont en train, en fait, d'entrer en compétition. Le premier courant, c'est celui qui dit on va essayer de développer un complexe industriel autour des gisements d'hydrogène à Inga. Ça, c'est le courant, en fait, qui discute avec les Australiens. Et puis, il y a un deuxième courant qui discute avec les Allemands. Mmh. Qui consiste à construire Inga et peut-être électrifier le chemin de fer, ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a encore le débat. Et pendant que nous débattons, et vous savez, la réalité de tout ça. Et nous savons bien que, bon, un élément de développement durable, c'est l'énergie. Bien sûr, l'énergie électrique. Donc, nous ne sommes pas bien placés, au point de vue.
Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, il y a deux courants qui se dégagent actuellement. Il y a un qui évoque la question du complexe gisement d'hydrogène et l'autre qui traite avec les Allemands, contrairement aux Autrichiens. Alors, le problème avec le Senabnep qui évoque les potentiels que regorge aujourd'hui la RDC avec l'hydroélectricité, avec le solaire, avec l'éolienne, avec notamment la géothermie. Alors, quelle est la voie à suivre concrètement? Faudrait-il développer, disons, l'électricité rurale?
Bien sûr. Bien sûr qu'il faudra développer l'électricité rurale, c'est très très important. Vous savez que quand les Nations Unies ont fait leurs statistiques, nous savons que, bon, de façon globale, au Congo, nous avons un taux de l'électrification de 9%. Et ce taux, en fait, il est aux environs 10% dans les milieux ruraux. Et environ une trentaine de pourcents dans les milieux urbains. Donc, il nous faut franchement nous occuper, parce que le Congo, ce n'est pas seulement la ville de Kinshasa, ni le Bumbashi ou Kikangani, mais c'est bien sûr aussi des villages reculés, ainsi de suite, là où nos compatriotes vivent. Et vous savez, par exemple, que bon, la FNEL a fait pas mal d'études, dans lesquelles, bon, comme vous l'avez dit aussi dans le générique de l'émission, que nous avons beaucoup de micro-centrales possibles au travers du pays. Et les études ont démontré que nous pouvons les développer éventuellement et c'est de tout le pays. Mais malheureusement, bon, de plus en plus, bon, je ne sais pas, notre gouvernement est beaucoup plus axé sur Linga 3. Linga 3 avec une vision panafricaine, ça veut dire vendre l'électricité. Alors, ouvrons un peu la petite parenthèse sur cette vision panafricaine. N'oubliez pas qu'au moment où je vous parle, les autres pays africains sont en train de s'électrifier. Exemple, nous avions un projet pour essayer de vendre l'électricité à l'Éthiopie. Et vous savez, le problème des barrages de la Renaissance. L'Éthiopie va avoir plus encore d'électricité qu'ils en ont besoin. Ils pourront éventuellement le vendre. Et au même moment, il y a des Angolais aussi. Je suis au courant avec les collègues ingénieurs angolais avec lesquels je travaille, à partir des États-Unis. Je suis au courant de toutes les centrales qu'ils font. Mmh. Eh bien, une grande conférence internationale qui vient de se passer en Afrique, qui s'appelle Power Africa, eh bien, lors de cette conférence, nos amis ingénieurs et chercheurs de l'Afrique du Nord nous ont révélé, en fait, que bon, ces pays maghrébins sont en train déjà de considérer de vendre de l'électricité solaire qu'ils ont à gogo à l'Europe, par une ligne à courant continu. Vous voyez qu'en fait, au moment où nous avons toujours cette vision panafricaine, eh bien, bon, il y a aussi ces pays africains qui sont en train de réfléchir et d'aller de l'avant. Donc, faisons attention pour que nous ne puissions pas nous retrouver nous-mêmes avec un métier d'électricité que nous ne saurons pas vendre aussi aux clients qui soient crédibles. Pour ne pas monopoliser la parole, je vous rappelle aussi, par exemple, que bon, un des plus grands clients d'électricité pour nous, c'est l'Afrique du Sud. Mmh. Observons très bien que l'Afrique du Sud, aujourd'hui, l'Afrique du Sud a beaucoup de problèmes. Et la société Eskom qui est supposée acheter l'électricité chez nous est pratiquement en difficulté comme la FNEL chez nous au Congo. Et quand vous regardez tout ça, quelque part, je pense que bon, ça vaut la peine que nous pensions plutôt à essayer de faire quelque chose qui pourra bénéficier aux Congolais, bien sûr, c'est-à-dire à l'électrification des grandes villes, des villages, et ainsi de suite. Et nous avons les micro-centrales partout. Mmh. Voilà.
Alors vous personnellement, vous pensez, quelle est l'option qui doit être définitivement prise par l'État congolais pour arriver à un résultat?
Personnellement, je pense qu'il est temps, franchement, que nous puissions ouvrir nos cahiers, un peu comme les Anglais disent, open the books, pour regarder un peu ce qu'on a déjà fait. Et c'est comme je viens de vous dire que la FNEL a fait pas mal d'études qui finalement a continué à cette possibilité énorme de microcentrales au travers du pays. Mm-hmm. Quand on parle de microcentrales, ça veut dire des financements quand même assez limités. On ne sera pas encore de 20, ou 30, ou 50 de milliards de dollars comme Linga 3. Et bien sûr, il y a par exemple un cas flagrant dont j'en fais souvent parler, parce que bon, il y a un de vos collègues, du journaliste, qui en est pratiquement devenu expert, si je pouvais citer son nom, c'est le député national de Pélézère, qui parle souvent de la centrale KTMB. Et cette centrale, en fait, bon, l'équipement est déjà à Lubumbashi quelque part, en train de traîner dans les wagons. Il a fait encore une émission il n'y a pas longtemps où il se plaignait du fait que bon, il avait les traces et même tout ce qu'il fait pour ramener cet équipement à 4 MD pour qu'on puisse remettre cette centrale et que le conseil central puisse se mettre debout. Eh bien, jusqu'aujourd'hui, il n'a absolument rien fait. Donc, ce que je pense, que le gouvernement regarde un peu sur ce qui est déjà dans les livres et que nous puissions faire avec ce que nous avons. Parce que justement, si nous voulons retaper 4 MD, par exemple, je ne pense pas que nous avons besoin de prendre l'emprunt de qui que ce soit. Et hier, je voudrais vous rappeler, ça c'est ma façon de réfléchir depuis que je vis ici dans la diaspora depuis longtemps. En fait, l'endettement excessif, c'est un peu comme une sorte d'esclavagisme moderne.
Tout à fait.
Parce qu'à la fin de la journée, vous devenez pratiquement esclave de vos créditeurs. Alors, est-ce qu'il faudra toujours aller avec ce modèle-là ou bien aller avec un modèle qui dit essayons de vivre même avec ce que nous avons, avec les moyens que nous avons pour essayer de faire avec ce qu'on a.
C'est ça.
Un peu ce que j'ai dit, le gouvernement devait regarder dans le livre. Par exemple, en ce qui concerne les 4 MD, aller reprendre cet équipement, l'amener sur place, essayer de retaper la caisse centrale et de tourner l'électricité au caisse centrale. Et vous allez suivre aussi à la Chopo, je vous dis, il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps, où nous avons des problèmes semblables.
Pour ne pas vous couper la parole, il y a l'absence du courant électrique dans la ville de Kisangani. En tout cas, c'est depuis quelques temps maintenant. Et au moment où nous produisons cette émission, la SNEL, le ministre, l'ENABEL, l'entreprise et l'IGF, hein, sur le banc des accusés selon certaines presses locales. Donc on va peut-être au cours de cette émission en débattre un peu davantage. Mais nous vous gardons en ligne, professeur, ne quittez pas. Il est temps d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui nous ont rejoint pour débattre ensemble sur cette question d'électrification de l'ensemble du territoire de la RDC. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Pour participer à Parole aux auditeurs, appelez au 081-890-4969 ou au 081-890-6330. Déposez-nous votre commentaire sur notre page Facebook, soit à pa@radiocapi.net. Et pour suivre Parole aux auditeurs en direct, rejoignez-nous sur www.radiookapi.net.
Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui proposent ces débats sur les taux d'accès à l'électricité qui est inférieur. Alors comment renverser la tendance avec vous, Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi, bonjour à l'invité.
Alors, qui a la responsabilité d'électrifier Bukavu? Est-ce l'État congolais ou bien il y a des privés qui y travaillent? Parce que je sais que déjà à Goma, il y a un boom des sociétés d'électricité privée.
En fait, cette question continue à déranger JR et franchement, l'opinion ne parvient pas à comprendre que c'est la RDC qui devait avoir jusque-là des problèmes en électricité. Parce que depuis que nous étions à l'école primaire, on nous disait la RDC a le deuxième fleuve au monde en termes de puissance. Et on nous disait souvent que avec les barrages d'Inga, on peut alimenter toute l'Afrique. À part ça, j'étais aussi à dire hier que au moins dans chaque territoire en RDC, il y a une rivière et on peut y installer une microcentrale. Malheureusement, je tiens à vous dire que, comme on l'a dit, et même l'invité l'a souligné, toute la RDC n'est pas électrifiée. Et c'est un problème sérieux. Pour répondre à votre question, c'est un manque de dirigeants responsables. On n'a jamais connu des dirigeants qui comprennent ce qu'ils peuvent faire pour que, finalement, la RDC soit électrifiée. Je tiens à vous surprendre hier. Nous sommes l'unique pays au monde où, pendant la nuit, et je prends plus particulièrement la ville de Bukavu, ce sont des véhicules qui éclairent pour la population. Il n'y a pas d'éclairage public. Et il suffit que tous les véhicules éteignent les lampes, c'est une catastrophe. L'unique pays au monde, c'est très dangereux. Moi, je pense que le problème réside au niveau des dirigeants irresponsables que nous avons toujours connus. En 2006, avec M. Kabang Joseph au pouvoir, avec ses 5 chantiers, il y avait...
Le volet électricité.
Oui, il y avait le chantier électricité. Mais 18 ans d'Ira au pouvoir, rien n'a été fait. Avec le régime en place, et aussi nous disait, une fois au pouvoir, nous allons mettre fin à toutes ces problématiques. Mais 3 ans d'Ira, qu'est-ce qui a été fait? Rien, à part des discours. Non, il y a tel projet financé, Inga 2, Inga 3. Mais, est-ce que nous avons du courant? On n'a pas du courant. On n'a pas du courage hier. Je pense qu'on peut faire recours à d'autres systèmes, comme le système solaire, comme les bombes
éoliennes, la géothermie.
De la ville de Goma. Mais, je pense que ça dénote de l'irresponsabilité notoire de nos dirigeants.
Je vous posais tout à l'heure la question. Comment Goma, aujourd'hui, on sent qu'il y a cet élan, ce boom des privés dans le secteur de l'électricité. Mais à Bukavu, comment ça ne suit pas?
Oui, tout à fait. Les gens sont en train de se poser cette question. C'est là que je parlais de l'irresponsabilité des dirigeants à différents niveaux. À Goma, on a compris, ce sont des privés qui sont parvenus à le faire ainsi, mais ce n'est pas l'État. Parce que là, dernièrement, j'ai compris que de façon privée, ce n'est pas le cas jusque-là à Bukavu, et j'appelle.
Et quelle est la source de cette électricité-là? Est-ce que ça provient du Rwanda ou bien de la rivière de la Ruzizi? Ils ont créé une microcentrale.
Ce n'est pas du Rwanda, mais il y a beaucoup de gens qui sont parvenus à ils utilisent beaucoup le système solaire.
Ils
sont venus à Goma, le système solaire. Et ce sont des opérateurs économiques qui sont parvenus à réfléchir ainsi. Et ils l'ont fait en constatant l'irresponsabilité notoire de nos dirigeants. Au Rwanda, chaque jour, on nous parle qu'il y a eu diminution de l'eau dans la rivière Ruzizi.
Oui.
Les Rwandais qui utilisent la même rivière Ruzizi n'a pas de problème à du courant. Mais chez nous, chaque jour, c'est ce qu'on nous dit.
Donc vous dites que le Rwanda puise une partie de son courant aussi de la rivière de Ruzizi.
Tout à fait, mais là, il y a un leadership responsable.
Mais à un certain moment également, à Bukavu, il n'y avait pas de problème de délestage parce que le courant était puisé au niveau de la rivière de la Ruzizi. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après?
Ce qui s'est passé, il y a d'abord la démographie. Mm-hmm. Vous êtes sans ignorer que non, la population qu'on a connue en 60 et en 80,
tout à fait,
pas la population qu'on connaît aujourd'hui dans la ville. Mm-hmm. Mais aussi, il y a la vétusté des matériels de la SNEL, qui date de l'époque coloniale, mais qu'on ne remplace jamais à cause des dirigeants irresponsables et médiocres, que nous avons toujours connus. Parce que si du moins on devait réfléchir même en termes de dire qu'on peut renouveler le matériel, on n'aurait pas les problèmes qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Mais aussi, il fallait qu'on comprenne que, comme on a des rivières dans chaque territoire, on pouvait installer des micro-centrales qui
pourraient être engorgées. Une solution durable.
Le courant que nous recevons de la rivière Ruzizi puisse seulement servir la ville au lieu que le même courant aille à Goma, le même courant aille à Ouvira, le même courant aille dans certains territoires de la
province. Merci beaucoup Amos d'avoir appelé. Merci beaucoup Amos d'avoir contribué dans cette émission. Alors Christian, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, merci Gérard Ngembo, je salue également l'invité.
Quelle est votre contribution Christian?
En tout cas, selon plusieurs sources, Gérard Ngembo, la RDC pouvait avoir 268 milliards de richesses minières dans son sol et plus de 400 milliards de richesses agricoles dans son sol. Et donc, disons, des richesses agricoles. Et donc, à cela s'ajoutent les richesses énergétiques indescriptibles et qui, aujourd'hui, si nous n'avons pas une desserte en électricité, vraiment, de plus en plus, on se pose mille et une questions de savoir est-ce un problème de leadership ou c'est un problème de malédiction. Finalement, on comprend que c'est un problème d'homme. Parce que si jusque-là, nous n'arrivons pas à transformer ces richesses, ces produits ou ces matières brutes en une richesse palpable, c'est tout simplement parce que l'homme capable n'est pas là, ou encore si l'homme capable est là, mais la volonté politique et la conscience nationale fait jusque-là défaut. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je crois qu'il faudrait non seulement responsabiliser ou encore mettre les compétences comme critères d'objectifs, critères de recrutement, et non faire référence toujours aux couleurs politiques, parce que jusqu'à aujourd'hui, les couleurs politiques qu'on a fait allégeance à tout moment pour tel ou tel autre poste nous ont démontré les limites. Et à cela s'ajoute, ou à cette compétence, je crois qu'il faudrait donner une certaine responsabilité des résultats évaluables après chaque 6 mois, avec sanction, avec possibilité de sanction, si par exemple la personne qui a été placée n'a pas jusque-là, n'a pas arrivé à satisfaire les objectifs lui assignés. Mais au-delà de ça, je crois que la plus grande force de la RDC, c'est d'abord sa population. Même si nos voisins aujourd'hui essaient tant bien que mal d'avoir leur propre barrage, nous pouvons tout simplement, en alimentant la RDC avec plus de 80 millions d'habitants, avoir beaucoup plus de moyens en termes d'électricité, tout simplement. Parce que si l'on arrive seulement à industrialiser les pays et que chaque province arrive à produire un bien, par exemple les métaux, et que ces métaux sont importés, voyez-vous que c'est les capitaux qui vont rentrer au pays. Mmh. Prenons par exemple les barrages de Kakobo là, qui est ici. Je pense que ces barrages, jusque-là, je ne sais pas si nous pouvons les qualifier d'un éléphant blanc ou comment. Or, selon certaines informations, il semblerait que ce barrage est pratiquement, je crois, est presque à l'utilisation. On peut déjà commencer à l'exploiter. Mais mmh. qu'est-ce que nous attendons jusque-là? Donc voilà que cela se confirme que nous avons un véritable problème d'homme ou encore un véritable problème de la volonté politique. Et donc, aujourd'hui, je crois que la responsabilité nous revient parce que si on ne pose pas des actes ou des actions concrètes d'ici 5 ans, la RDC va encore sombrer. La ville de Bandung, qui, à son temps, n'avait pas des formes
de délestage.
Mm-hmm. Mais aujourd'hui, ces problèmes, c'est les pains quotidiens de Bandundu. Et aujourd'hui, là-bas, on facture les gens à la tête des clients. Regarde ce qui se mettait sur l'Union, ils travaillent ou Radio Capi. Allez, vous allez payer autant. Vous voyez que automatiquement, il n'y a pas cette possibilité pour les consommateurs, les abonnés, de payer humblement, je dirais, facilement le facture de leur consommation. Parce que vous leur facturez sans pour autant que cette facturation.
Voilà, merci beaucoup, Christian Politassi.
Mais au-delà de ça, je vais finir par là.
Oui, rapidement, oui.
Un autre problème, c'est le problème de recrutement. La SNEL fait pratiquement plus de 20 ans qu'elle ne recrute pas. Mais comment voulez-vous avoir des résultats pendant que vous avez un personnel déjà,
vieillissant,
je dirais, fatigué, mm-hmm. un personnel impossible.
Qui ne peut plus produire avec un rendement faible.
Pour espérer à des résultats.
Non seulement la SNEL éprouve des difficultés avec ce qui concerne l'outil du travail, mais également les ressources humaines qui ne répondent plus à la réalité moderne. Merci beaucoup à Christian d'avoir appelé parce que bon, nous avons des potentiels énergétiques en termes de l'hydroélectricité, en termes du solaire, en termes de l'éolienne et pourquoi pas la géothermie avec notre invité qui est chercheur et professeur à l'ISTA. Il est chercheur aux États-Unis et professeur des universités. On verra quelle est l'option à lever, l'option l'idéal. Merci beaucoup Christian d'avoir appelé. On va prendre Kilocho Moussemé. Kilocho, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous êtes de mouvement, vous venez de lancer un mouvement contre la SNEL, parce que vous estimez que la population ne rentre pas dans ses droits les plus légitimes d'avoir accès à l'électricité. En quoi consistent ces mouvements que vous venez de lancer?
Oui. Premièrement, la SNEL est la Société Nationale d'Électricité en RDC. Elle a ses devoirs et ses droits. Par rapport à ses devoirs, nous avons enregistré sous son statut comme 4 devoirs. Mais ce qui nous concerne, c'est par rapport à ces 2 devoirs qu'elle n'arrive toujours pas à respecter. Premier devoir est la distribution de l'énergie électrique. Et le deuxième devoir, c'est les transports de l'énergie électrique. Par rapport à la distribution, nous constatons une précarité atroce, maussade, de l'énergie électrique en République démocratique du Congo, malgré les paiements des parties de nous abonnés. Deuxièmement, par rapport au transport, il y a d'autres coins que la SNEL, je ne sais pas quoi dire, ou soit abandonné, ou soit délaissé, que la SNEL n'existe même pas, alors que la SNEL est une institution publique qui bénéficie de plusieurs avantages de l'État. Elle devait agir pour que la population congolaise puisse bénéficier de ses richesses. On a autant de barrages, en RDC, mais la population souffre. La population continue toujours de souffrir à cause de l'électricité. C'est pour cela, moi j'ai eu à penser qu'on ne pouvait pas croiser les bras et laisser les choses se passer comme elle est en train de se passer. J'ai eu à initier un mémorandum qui sera adressé le 6 septembre au directeur général de la SNEL pour qu'il puisse nous expliquer comment la SNEL, avec ses fonds, comment la SNEL, avec ses moyens humains, financiers, matériels, elle n'arrive toujours pas à répondre à ses devoirs, à ses 2 devoirs, les transports et la distribution de l'énergie électrique. Pourquoi? Parce que de notre côté, nous, les abonnés, nous payons nos farcis, parce que si nous ne payons pas nos farcis...
Donc vous érigez en défenseur des consommateurs. Vous voulez quoi exactement? Qu'il y ait une marche de protestation contre la SNEL? Parce que vous dites assez, disons, vous en avez marre.
Pardon.
Donc vous appelez les gens à manifester ou parce que vous en avez marre?
Oui. Parce que comment un abonné qui paye sa facture, mais qui n'a pas toujours du courant, il y a toujours des coupures inutiles, sans raison. Comment une société qui agit sans pourtant informer ses abonnés? C'est irresponsable en quelque sorte, permettez-moi des termes. Parce que avant que la SNEL puisse informer, elle le fait rarement. Après la distribution, soit elle est faible, soit elle est
inexistante.
Saisonnière.
Quasi inexistante.
Mmh. Oui. Mmh. Il y a dans d'autres provinces comme au Sankourou, la SNEL est où? Elle est où? Au Sankourou. Dans les provinces comme les Mongala. La SNEL est inexistante là-bas. Nous, ce que nous voulons, c'est que la SNEL puisse respecter ses deux devoirs. Mm-hmm. La distribution
et le transport. Merci beaucoup.
L'énergie électrique.
Merci beaucoup, Kilo Show. Nous rappelons que vous avez initié une pétition pour que les gens, disons, désavouent la SNEL. Bon, je ne sais pas, parce que la SNEL est déjà sous un autre régime. Aujourd'hui, c'est une entreprise commerciale. Alors, que fait l'agence nouvellement créée par le chef de l'État, mise en place et avec des mandataires, et disons les animateurs qui ont été déjà désignés et nommés, pour bien réguler le secteur de l'électricité à RDC? On va y revenir. Merci beaucoup, Kilo Show. Alors, le temps d'accueillir également Touraya Aviv. On va recevoir notre invité, monsieur le professeur Avoki Omenkanda. Vous êtes avec nous, prof? Professeur, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là. Oui.
Voilà, vous avez suivi les auditeurs. Quelle est votre réaction,
oui,
professeur?
Je suis là.
Professeur, comment réagissez-vous après avoir écouté les auditeurs?
En tout cas, je suis impressionné par la maturité de nos auditeurs. Et bien sûr, c'est quand même une échantillon assez respectable, je dirais même de l'opinion congolaise aujourd'hui. En fait, le ras-le-bol est là et tout le monde constate et observe ce chaos du fait que, bon, l'explication de notre pays est un problème sérieux. La société SNEL, qui est supposée, comme disait notre auditeur Kiloso, supposée produire, transporter et distribuer l'électricité, a vraiment échoué. J'irai même plus loin en disant, personnellement, je proposerai, si vraiment, monsieur le président, m'écoute, où le problème est. La compagnie comme la SNEL, un peu comme on le voit dans les pays développés, devait être normalement, si pas complètement annulée, et rebâtie peut-être une nouvelle société avec un autre nom. Parce que le nom SNEL est devenu déjà un problème. Cet échec sera quelque chose qui, dont la réconciliation avec la population sera difficile. Et je pense que vous avez entendu notre premier intervenant qui a parlé de la situation de Goma là-bas.
Tout à fait, avec la rivière de la Ruzizi au niveau du Bukavu et Goma avec les booms privés dans les secteurs.
C'est ça, exactement. Et en fait, vous le savez très bien que le boom privé est quelque chose d'assez intéressant, mais qui m'inquiète un tout petit peu dans ce sens que, bon, le privé, quand il vient dans le business, c'est pour...
Le business, c'est le capitalisme, ouais.
Alors, ils sont là, le pays sera là, mais à quel prix est-ce qu'ils le vendront au commun des mortels? Alors que nous savons un peu le taux de chômage dans notre pays, comment il est. C'est ça un peu le grand danger hein, quand on voit ce genre de situation. Et dans la plupart des pays développés, il y a toujours le national qui vient, le gouvernement central, pour essayer d'assurer que même les pauvres peuvent avoir accès à l'énergie. Parce que c'est très important, comment est-ce qu'on va les faire sortir de la pauvreté? Bon, c'est un aspect bon qui est quand même bon parce que les entreprises auront de l'électricité qui peuvent acheter pour travailler et produire la richesse. Et de l'autre côté, le paysan, bon, c'est quand même un problème. Donc, la présence du privé ne va pas remplacer le gouvernement central. Et d'apporter une responsabilité à assurer la distribution et la production de l'électricité. Et puis ensuite, bon, il y a aussi frère Christian qui a évoqué, bien entendu, la situation des Kakobos, là, ils ajouteraient même la situation des Zongo 2, par exemple. Mm-hmm. Et nous avons vu dans nos pays des cas où nous avons construit des centrales, et sans des lignes de distribution, de transmission. Donc la centrale existe, mais il n'y a pas de ligne pour transporter l'électricité. Alors là, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Je crois, hier, vous savez très bien qu'il n'y a pas longtemps, je me demande si ce n'est pas au début de ce mois d'août que M. le Président de la République venait d'inaugurer une substation de 220 kV aux environs de Kinshasa pour recevoir l'électricité qui vient des Zongo 2. Alors, quand vous entendez ce genre de choses, ça veut dire que même dans la planification de l'électrification, les choses n'ont pas été faites de façon appropriée et correcte. Et je vous rappelle aussi qu'il y a eu un collègue de l'IFA, le professeur Ndaye Nkanka, il y a un article dans le website de Radio Capi. On avait, je crois, interviewé le 7 novembre 2019, et là où il a évoqué dans son article son jugement concernant la centrale de Zongo 2, avec toutes les insuffisances qu'il avait notées à l'époque. Donc c'est pour cela que je reviens toujours en disant, à l'époque, les Congolais se rendent compte de tout. Et je félicite beaucoup mon frère Kinoso pour ce mouvement citoyen qui commence déjà pour réclamer le droit. Parce que finalement, bon, le droit d'accès à l'énergie, à l'électricité, c'est quelque chose, je suis sûr, je ne suis pas spécialiste de la Constitution, mais ça doit être garanti quelque part dans la Constitution. Le droit du gouvernement central de fournir le minimum
voilà, population. Parce que déjà là, ça bouge du côté de la Tchopo. Mais professeur, j'aimerais bien que vous réprécisez un peu les choses. On a l'impression à entendre toutes ces personnes qui ont accepté d'intervenir dans cette émission et même dans l'opinion publique, hein, quand nous circulons dans nos avenues et également à travers la ville de Kinshasa, on se rend compte que finalement tout le monde est d'avis que l'option sur l'hydroélectricité, ça a complètement échoué et qu'il va falloir changer les paradigmes. Et les paradigmes qu'on propose par rapport à notre potentiel énergétique, il y a le solaire, il y a l'éolienne, il y a la géothermie. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est vrai, le solaire, ça passe déjà du côté des Goma, vous avez suivi Amos, mais est-ce que l'éolienne, on peut aussi développer cette option?
En tant que spécialiste de ces matières d'électrotechnique et de production d'électricité, j'aimerais rappeler à mes confrères congolais qu'en fait, la plupart des énergies renouvelables, l'éolienne, le solaire, ainsi de suite, on peut le voir déjà dans les pays développés, sont utilisés comme des systèmes d'appoint. C'est-à-dire que vous avez une base, et quand cette base n'est pas à la hauteur, par exemple, pendant les heures de paix de la journée, vous utilisez le soleil, par exemple, pour réinjecter l'électricité sur le réseau et être capable de fournir les heures de paix. Mais je vous rappelle tout simplement que, par exemple, avec le solaire, quand vous n'avez pas, vous êtes la nuit et que vous n'avez pas de soleil, eh bien vous ne pouvez pas produire. La seule chose que vous avez à ce moment-là, c'est l'accumulation que vous avez faite par le moyen des batteries pendant la journée. Bon. Les batteries coûtent cher. Et donc, il y a quand même une problématique et donc il ne faut pas oublier les conséquences. Au fond, que l'hydroélectricité, c'est-à-dire l'électricité produite par les machines électriques, qui sont les moyens de production les plus fiables. Et rappelez-vous, par exemple, que Inga 1 a été commissionné en 1972. La centrale est toujours là. Inga 2 est venu en 1982. Mais je peux vous assurer, par exemple, que quand vous pouvez prendre votre centrale solaire, la meilleure du monde aujourd'hui, c'est qu'à 10 ans après, vous devez remplacer toutes les batteries. Ce qui demande encore un gros investissement. Est-ce que quand nous sommes en train d'utiliser ce système solaire, par exemple, Goma, et on pense à ce que ça va donner d'ici 5-10 ans. Je crains beaucoup qu'à ce moment-là, la population soit vraiment déçue et que bon, nous puissions voir encore d'autres voies, un peu comme la réclamation de notre frère Kinoso. Donc, je dirais plutôt, comme l'a dit un des auditeurs il n'y a pas longtemps, nous avons le micro central possible au travers de tout le pays. Nous avons été bénis par le ciel. Faisons-nous. C'est la grande question.
Voilà. Professeur, nous vous gardons encore en ligne. Il est temps d'écouter cette deuxième série des auditeurs. On va prendre d'abord, on va commencer avec Touraya Aviv, qui nous a rejoint. Touraya Aviv, vous êtes avec nous.
Je m'appelle donc Touraya Aviv, je vous appelle depuis Kinshasa. et je suis chargée de communication à l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu ruraux et périurbains. Donc c'est en bref l'agence qui a la charge d'électrifier le milieu ruraux et périurbains de la République démocratique du Congo. C'est une agence qui a été créée en 2016 à la faveur de la loi des libéralisations de 2014.
Oui, madame, Soraya. Oui, madame Soraya, là où vous êtes, vous sortez entrecoupé, avec des micro-coupures, on ne saura pas bien vous capter. Si vous pouvez peut-être vous déplacer, l'état pour nous, dès que la ligne s'améliore, et on reviendra à vous. 081-890-6330 ou encore les 081, pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Merci une fois encore de votre fidélité. Voilà, on va écouter Marie-Paul en attendant de retrouver également Soraya, si la ligne pourrait s'améliorer. Alors Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour Marie-Paul.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Voilà, Marie-Paul, vous avez la parole. Quelle est votre contribution?
Oui, monsieur le journaliste, il faut dire que l'électricité dans tout état, c'est l'un des moyens indispensables dans les processus de développement. Alors, de ce point de vue, les rapports des centres nationaux d'appui et de développement à la participation populaire, faisant étant de 10% des taux d'accessibilité à l'électricité en RDC, un logique est fondé. Parce que la RDC, c'est un pays qui se trouve, monsieur le journaliste, dans une situation très compliquée pour l'électrification et pour l'électricité. Et les quelques barrages qui alimentent ces pays justement de la colonisation sont devenus obsolètes. Et ces barrages-là sont devenus un peu vestustes, au point que on ne veut pas tout simplement, les gouvernants ne veulent pas tout simplement fermer ces barrages au motif que pour les faillites, ils veulent tout simplement laisser ces barrages fonctionner de cette manière-là, dysfonctionnelle. Alors, et maintenant la conséquence c'est que, parce que nous n'avons pas l'électricité dans notre pays, il y a une sorte de la désindustrialisation en RDC. C'est parce que vous n'êtes pas à savoir ce que on ne peut pas penser à industrialiser les pays sans que l'électricité soit quand même permanente. Et nous avons ce sérieux problème parce que les grandes sociétés, les grandes entreprises qui veulent bien venir s'implanter en RDC ne peuvent pas venir, d'autant plus que l'électricité pose problème. Et nous manquons même les investissements, comme je viens de le dire, à cause de l'électricité. Peut-être que nos gouvernants prennent un peu à la légèreté cette situation. Nous voulons bien qu'on crée des emplois, nous voulons bien qu'on ait des investisseurs, mais on ne peut pas avoir des investisseurs, on ne peut pas avoir des investissements directs étrangers que nous disons, les sociétés multinationales, sans que l'électricité soit permanente. Alors, vous savez, monsieur le journaliste, l'ONU, faut de ces éléments, l'ONU a créé au sein de cette organisation, un organe qui s'occupe de l'industrialisation des pays en développement, qu'on appelle INODI, c'est-à-dire Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. Mais la RDC n'est plus rien de cette organisation.
On y dit.
Oui, la RDC n'est plus rien de cette organisation. Alors voilà pourquoi, à mon avis, je trouve que les rapports que vient de fournir cette organisation, cet organisme, et c'est un rapport qui est justement logique, c'est un rapport révélateur. Et c'est un SOS pour les gouvernants de la RDC, de pouvoir mettre en place une politique réaliste d'électricité dans notre pays. Et cet élément, monsieur le journaliste, c'est une illusion quand on doit penser à développer la RDC sans l'électricité. Et on ne sait même pas, avec l'électricité, ça peut créer beaucoup d'emplois, parce que je l'ai dit, on peut avoir des industries, on peut avoir des investisseurs qui viennent, et les usines vont commencer à fonctionner, on peut avoir beaucoup plus d'industries. Mais nous ici à Kisangani, c'est quelque chose qui est horrible. Nous avons, ça c'est un mois que nous faisons, la ville est dans les noix, dans les ténèbres, je dis dans les ténèbres. Et les quelques ingénieurs que nous avons qui fonctionnent dans la société qu'on appelle SNEL ici.
Est-ce que vous nous confirmez l'appel à la manifestation lancé pour protester, en tout cas, avec des bougies à la main pour exprimer leur ras-le-bol qui est prévu aujourd'hui.
Oui, je pense que oui, il y a manifestation prévue parce que aucune information. Nous il y a l'opacité totale. On ne sait pas. On nous a dit qu'il y avait un problème de au niveau de la turbine et qu'il y avait déjà des ingénieurs qui sont déployés, qui sont en train de réparer. Mais rien ne s'annonce, aucune communication. Et on sent réellement qu'il y a un problème de gouvernance. Si aujourd'hui ces sociétés, nous avons la SNEL ne fonctionne plus, il y a moyen quand même que les gouvernants soient courantiers de pouvoir confier aux particuliers ces sociétés. Et on peut avoir un investisseur qui va réellement pouvoir bien tourner la machine, mais ça ne va pas. Vous êtes dans les noirs, vous ne savez pas vous connecter, vous êtes déconnecté dans le monde.
Merci
et
beaucoup.
Les sociétés ne fonctionnent pas. C'est vraiment un grand défi. Voilà pourquoi moi je trouve que dans notre pays, s'il y a parmi des chantiers qu'on doit exclure dans les programmes gouvernementaux, on doit mettre l'électricité comme l'un des chantiers primordiaux, l'un des chantiers qui est vraiment prioritaire pour que les
Merci
pays puissent
beaucoup.
Justement avoir des industries, avoir
Merci
créer
beaucoup,
des emplois.
Marie-Paul.
Parce qu'on ne peut pas fonctionner sans l'électricité. Je pense que s'il n'y a pas l'électricité, nous allons faire
Merci
les tours
beaucoup,
des ronds et que la situation ne va pas
Merci améliorer. Marie-Paul. Merci beaucoup. Alors, pour vous rafraîchir, bon, peut-être pour votre gouverneur, ceux qui ne savent pas la situation qui prévaut actuellement à Kisangani, et depuis plus de 5 ans, Kisangani est confronté à des problèmes de fourniture à d'énergie électrique. La centrale hydroélectrique de la Tchopo n'est fonctionnant qu'avec un seul groupe, le numéro 2, le premier étant hors d'usage depuis 2017. Alors, conséquence, la production électrique a été réduite de 10 à 2,5 MW, alors que le besoin de la ville est estimé à 40 MW. La SNEL avait enregistré le 12 février dernier, donc en 2020, une panne du groupe numéro 3, trois semaines seulement après sa remise en service. Alors, selon les informations en notre possession, pour réparer la panne sur cette infrastructure, l'entreprise avait besoin de seulement 400 000 $ américains. Et jusqu'à aujourd'hui, les problèmes se posent avec acuité. Merci beaucoup, Marie-Paul, d'avoir souhaité intervenir et vous l'avez fait. Merci. Alors, on va prendre Madame Soraya Aviv, qui est chargée de communication à Anser. Madame, vous êtes avec nous. Je crois que la ligne s'est améliorée.
Oui, je suis avec vous. Merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais juste préciser certains petits problèmes.
Voilà, on a vraiment des sérieux problèmes. On a vraiment des sérieux problèmes avec votre ligne. Je ne sais pas si c'est un problème avec votre téléphone ou carrément là où vous êtes. Si vous êtes vraiment dans un immeuble, prière, vous déplacez, ça nous aiderait à avoir une très bonne communication et à nous entendre vraiment de manière très 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 fluide. Merci beaucoup. Alors, on revient à vous, professeur Avoki Omenkanda, professeur des universités en RDC et chercheur aux États-Unis. Et de là où vous intervenez maintenant, vous êtes aux États-Unis, vous avez suivi les interventions des uns et des autres. Quelle est votre réaction, professeur?
En tout cas, vous avez senti le ras-le-bol de notre intervenant de Kisangani, Marie-Paul. Et vous-même, vous venez de dire aussi quelque chose qui est une information capitale, $400 000 au Congo. Et c'est pour cela, j'insiste pour moi personnellement, au vu de toutes les années dont nous avons discuté de l'Ira 3, depuis Mobutu, depuis... les deux Kabila jusqu'à encore aujourd'hui, essayons de faire avec ce que nous avons. Et qu'il nous manque 400 000 $ dans les coffres de notre gouvernement. Il y a de l'argent. C'est pas peut-être la mauvaise foi, ou je sais pas, ou des intérêts sont ailleurs. Et bien, il est temps que nous puissions garder un peu dans notre mentalité de faire avec ce que nous avons. Pas plutôt essayer de toujours ouvrir des grands projets rocambolesques, mais faire très peu en support. Il y a eu un reportage de la télévision belge, je ne sais pas encore française, qui montrait qu'en fait, avec quelque chose comme 2 à 3 millions de dollars, il y avait moyen de retaper la centrale de la Tchopo à 100% de capacité.
Mais ce qui est curieux, professeur. Oui, professeur, ce qui est curieux. La banque, pardon, le royaume de la Belgique, à travers l'agence Enabel, avait mobilisé 4,5 millions de dollars américains pour ces travaux-là. Alors ces fonds furent logés à la succursale de la Rawbank à Kisangani, nous renseignent certaines sources. Alors en octobre 2020, l'annonce du début des travaux fut donnée, mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait, raison pour laquelle elles sont acquises aujourd'hui. Les choses ne sont pas clairement identifiées.
Oui. Exactement, ça c'était le problème. Moi, je pense que, bon, quand on regarde notre pays, vous le dites déjà, c'est le Royaume de Belgique qui nous a envoyé de l'argent. Et vous le savez très bien que, bon, cette somme d'argent, de ce niveau-là, bon, notre gouvernement peut encore se le permettre avec le peu que nous avons. Le problème énergétique au Congo est un problème sérieux. À un moment donné, je me demande si vraiment notre gouvernement est vraiment conscient du fait que les Nations Unies ont parlé des objectifs de développement durable et que l'objectif numéro 7, c'est l'énergie, et l'énergie, c'est-à-dire l'électrification là-dedans. Et il n'y aura pas de développement tant qu'il n'y aura pas de l'énergie. Je ne sais pas franchement comment est-ce que la vision du Congo du futur va se faire. Alors, parce que nous sommes un scandale géologique et même un scandale agricole, comme le disait un des intervenants auditeurs il n'y a pas longtemps. Quelquefois, il y a de quoi se dire, c'est peut-être la mauvaise foi. Personnellement, je vis ici aux États-Unis, ça fait 25 ans, et j'étais en Belgique où j'ai fait mes études pendant 10 ans là-bas, j'ai vu un peu comment tous ces pays développés fonctionnent. Je pense de plus en plus que la conscience populaire commence à regarder le problème, peut-être qu'à ce moment-là, le politique doit commencer à écouter. Parce que franchement, il y a quelque part une mauvaise foi. Le Congo ne manque pas de techniciens qui peuvent venir réparer. Tout ce qu'il y a, c'est l'argent. Il faut acheter des équipements et les envoyer, et les Congolais peuvent les installer. Le problème que nous avons à la Tchopo, on l'entend aussi à la semaine. C'est l'Inga 1 et l'Inga 2. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Et comme je vous l'ai dit, je me souviens très bien que monsieur le sélectionneur du président public avait parler en fait d'un grand projet avec General Electric ici aux États-Unis pour retaper les centrales Inga 1 et Inga 2. Qu'est-ce que c'est devenu? Ils sont là, bon, il y a eu un nouveau gouvernement maintenant en place. C'est ça un peu le problème. Est-ce qu'il y a moyen que nous puissions nous occuper de ce que nous avons, au lieu de commencer à cette chanson de Roland de Inga 3 qui a commencé depuis longtemps, et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, nous avons deux versions. Deux versions, qui est la version australienne et la version allemande, ne corroborent même pas du tout avec la version de l'ancien
régime avec Joseph Kabila qui parlait de créer les Inga pour vendre.
Oui. Oui.
Voilà. Professeur.
Vous voyez, jusqu'à quand donc.
Allez-y, professeur.
Non, ce que je dis, c'est de constater tout simplement que bon, on continue à implémenter de nouvelles versions, mais on ne regarde pas la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver ces 400 000 dollars rapidement pour retaper le fisc et le revenu, les 50% de la puissance de Tchopo?
D'abord, tirer les choses au clair, les 4 millions, les 4,5 millions. Voilà, les 4,5 millions déboursés par les labels. Alors, et par où est passé cet argent? Donc, on verra peut-être la suite après, avec tous ces débats qui s'est invité au niveau du Parlement par rapport à cette question. Merci beaucoup. Alors, on va prendre Kalo Kalonji. Kalo? Voilà, on prend plutôt Soraya à vivre. Soraya? Madame Soraya?
Oui.
Voilà, je vois la ligne s'est améliorée. Vous avez la parole, parce que vous êtes la dernière à intervenir.
Merci. Je voudrais d'abord saluer la clairvoyance de tous les intervenants, mais je voudrais attirer l'attention sur certains points. Le secteur de l'électricité a été libéralisé, et donc l'électrification de la RDC, c'est la responsabilité du gouvernement de la RDC, et la SNEL aujourd'hui est une entreprise comme toutes les autres entreprises, et donc elle n'a pas totalement la responsabilité de l'électrification du pays. Les segments de l'électricité qui ont été libéralisés, c'est les 4 segments, la production, le transport, la distribution et la commercialisation. Alors les entreprises sont libres de choisir l'un ou l'autre de ces segments ou bien de les prendre tous ensemble. Mais par exemple pour le cas de Kisangani, si la SNEL ne peut produire que 2 mégawatts, les autres entreprises sont libres de venir, d'investir et de produire le reste. La responsabilité d'Électricité Kisangani incombe au gouvernement. C'est le gouvernement qui doit mettre des mesures incitatives pour que d'autres opérateurs puissent aller se déployer dans ces milieux-là. Pas seulement les milieux urbains, mais aussi les milieux ruraux, parce que comme un auditeur l'a dit, le droit à l'électrification, c'est un droit constitutionnel, et donc tout le monde, en milieu ruraux comme en milieu urbain, y a droit. Après avoir fait cette petite précision, je voudrais maintenant parler des barrières elles-mêmes. Pourquoi le Congo n'est pas électrifié malgré son grand potentiel ? C'est parce que, traditionnellement, le Congo a fonctionné sur les systèmes de monopole, et donc le marché de l'électrification était verrouillé en confondant une entreprise publique avec la force publique. C'est cette entreprise qui avait le monopole pour faire aussi la planification de l'urbanisation. Et donc là où elle sentait que ce n'était pas très rentable, là où le pouvoir d'achat de la population était faible, elle n'allait pas s'installer là-bas. Et elle fonctionnait exclusivement sur le mode de l'extension d'un réseau existant ou bien mettre en place des grands réseaux. Comme vous le savez, mettre en place un grand réseau nécessite des longues études et des grands financements, et nous n'avons pas toujours eu ce temps et ces moyens. Alors la solution que le gouvernement, qui aujourd'hui a la responsabilité de l'électrification, la solution qu'il a mise en place, c'est la mise en place des deux agences. L'autorité de régulation de l'électricité, l'ARE, pour réguler justement le marché de l'électricité au Congo, accorder les licences, s'accorder sur les standards et les prix. Et d'un autre côté, l'agence de l'électrification en milieu ruraux et périurbain pour apporter l'électricité là où l'électricité n'a jamais existé. Et ça, c'est l'ANSER. Et moi, je parle au nom de l'ANSER. C'est là que je travaille. Les solutions que l'ANSER a mises en place, c'est d'abord poursuivre avec la libéralisation du secteur de l'électricité, c'est-à-dire mettre des mesures incitatives pour que plus de compagnies puissent venir et travailler à côté de la SNEL pour électrifier différentes zones de la RDC. La deuxième chose, c'est inclure dans le plan national d'électrification les milieux ruraux et les milieux périurbains qui ont toujours été laissés pour compte. Parce que la politique de la SNEL, c'était d'aller vers les milieux urbains. Mais avec ANSER, on met maintenant en place la politique d'électrification rurale et périurbaine. La troisième chose, c'est la décentralisation du réseau. Au lieu de penser à étendre le réseau de Kakobola, le réseau de Inga, le réseau de Katende, on va maintenant aller dans les micros et les mini-réseaux, que ce soit hydroélectrique ou solaire ou encore biogaz ou
géothermique et l'éolienne.
C'est aussi, exactement, c'est aussi les kits solaires, avoir des kits solaires qui permettent aux bâtiments et aux ménages d'être autonomes dans leur électricité. Mais aussi, là où il le faut, c'est l'extension du réseau existant, le réseau de la SNEL. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui vont pouvoir acheter l'électricité chez la SNEL, à la SNEL, et la distribuer au nom et pour le compte de la SNEL. Donc voilà un peu les mesures qui sont mises en place. La plus grande barrière qu'on a remarquée, l'ANSER n'a qu'une année, et donc nous sommes encore en train de mettre en place toute l'institution et les structures. La plus grande barrière que nous avons remarquée, c'est le pouvoir d'achat de la population. Plus de 80% de la population congolaise vit avec moins de 2 dollars par jour, ce qui est vraiment en dessous du seuil de pauvreté. Et donc ces ménages ne peuvent pas mettre 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars par mois, ce qui est le juste prix d'une consommation d'électricité par ménage au Congo. Alors ce que nous avons mis en place, c'est un fonds d'électrification rurale qui va permettre d'accorder des subsides aux ménages ruraux afin que les opérateurs électriques, que ce soit la SNEL ou bien les nouveaux opérateurs, puissent quand même s'aventurer dans ces milieux où le pouvoir d'achat est faible, vendre l'électricité au prix réel. La population va prendre en charge ce qu'elle peut, qui sera déterminé avec la population et avec les entreprises. Et ANSER, à travers le fonds Mwinda, va prendre l'autre partie. Alors, ce fonds, c'est une solution pour les ménages, mais à part les ménages, il y a plusieurs autres bénéficiaires. On a dit que l'électricité, c'est un levier de croissance et de développement.
Donc, voilà,
il y a l'industrie.
Madame Soraya.
Il y a les bâtiments publics qui consomment énormément d'électricité et qui aujourd'hui ne payent pas l'électricité. Donc, il faut trouver des solutions.
Voilà, Madame Soraya, le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Je crois qu'on reviendra dans une autre émission sur cette question de fonds d'électricité rurale, parce que c'est très important. Je crois que la semaine prochaine, on peut revenir sur ce débat avec vous dans son entièreté. Merci beaucoup. Hein.
Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup.
Professeur, juste un mot en conclusion. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous? Professeur Avoki Omekanda.
Oui.
En une phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir?
C'est quand même un débat.
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de professeur Avoki. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On se retrouve avec vous demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes.